Café, radio et éducation populaire, une chronique pour mieux connaître les organismes citoyens des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, une présentation du RÉPAC 0312.
Il est bon, hein? Il est bon, le petit thème du RÉPAC. Je l'aime bien, vraiment trippant. Je suis en compagnie de Vania Wright-Larin et Naélie Bouchard-Sylvain. Salut à vous deux. Je suis contente de vous parler ce matin. Vous êtes coordonnateur du RÉPAC 0312, le regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. On va parler de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. C'est quoi ça?
Oui, oui.
Question très directe ce matin. Faut être réveillé. Donc oui, qu'est-ce que ça, justement, comment est-ce qu'on s'engage pour le communautaire?
Oui, ben en fait, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, il y a une semaine de grève cette semaine. Dans ce sens, il y a comme 1400 groupes communautaires qui participent à la grandeur, en fond, à une vague de grève rotative. Toutes les régions sont concernées, sont mobilisées. Il y a plusieurs actions. Donc, on parle de marche jockey, d'une marche, de manif, de pitage, de rassemblement. Bref, on va faire passer le message qu'on est sous-financé toujours. Et c'est là le cœur de la campagne Engagez-vous. En fait, 460 millions de plus pour 4000 groupes d'ACA. On veut que le gouvernement reconnaisse notre autonomie. Puis, on veut la justice sociale, rien de moins.
Quand même, c'est bien. Quand vous dites « reconnaître notre autonomie », qu'est-ce qu'on veut dire par là exactement?
Ben, je peux peut-être y aller. L'autonomie des groupes, c'est essentiel dans le communautaire. Tu es bien placé pour le savoir en tant que radio communautaire.
Oui.
C'est ce qui permet aux groupes communautaires, dans le fond, de répondre aux besoins des communautés qui les ont formés, qui les entretiennent, qui les animent. Puis l'autonomie, c'est ce qui nous permet de comme ne pas être un CLSC ou ne pas être des services publics, être différent, offrir quelque chose de différent qui ressemble à la population, dans le fond. C'est notre marge de manœuvre pour avoir nos propres pratiques, nos façons de faire, offrir les services qu'on constate sur le terrain aux personnes qui en ont besoin. C'est
oui.
Ça l'autonomie du communautaire, puis c'est essentiel pour que le réseau fonctionne de cette façon.
Ben oui, parce que ça nous permet aussi d'être réactif quand il se passe des choses, d'être plus agile, d'être autonome aussi. Ça, c'est vraiment intéressant, puis ça permet d'être, comment dire, d'être avec nos membres, d'avoir une institution qui est aussi démocratique, là. Vous êtes connecté avec plusieurs organismes, bien sûr, le RÉPAC. Comment ça se passe en ce moment là, sur le terrain? Il y a des grèves là, en ce moment depuis hier. C'est ça? Ça a commencé hier?
Oui, c'est ça.
C'était aux deux bouts du Québec, là, Côte-Nord puis l'Abitibi hier. Aujourd'hui, c'est Montréal qui va être en action. On a voulu faire une grève pour que notre moyen de pression dure dans le temps, qu'on puisse se faire entendre, parce que souvent, ça passe vite dans les médias aujourd'hui, avec qu'est-ce qui se passe autour de nous, surtout. C'est quoi, dans le fond, là, une grève? Là, pourquoi les groupes sont en grève? D'abord, il faut préciser que c'est pas tous les groupes qui sont en grève. C'est grève, fermeture, interruption de service. Comme les groupes communautaires sont autonomes, les moyens de pression aussi sont autonomes. Puis fermer un groupe communautaire, c'est rare qu'un groupe est prêt et content à faire ça. Il faut vraiment qu'il y ait un gros problème sur place. Puis c'est ça qui se passe actuellement dans les groupes communautaires. Moi, ça fait une vingtaine d'années là, que je suis dans le milieu communautaire à Québec, puis j'ai jamais vu une situation comme maintenant. Le sous-financement, ça date de toujours. Les difficultés de mener nos missions parce qu'on a des projets qui rentrent, ça date de toujours. Les groupes, ils ont toujours fait face à ça, puis ça a toujours engendré des problèmes. Mais là, avec la pandémie, avec la crise de la main-d'œuvre là qui s'accentue, puis avec un sous-financement qui continue de pas augmenter, ben c'est vraiment, entre autres, le problème des équipes de travail là, qui est fou actuellement. Il y a des groupes qui sont en perpétuel renouvellement d'équipes de travail, puis c'est pas parce qu'ils ont 40 employés. Là.
Oui.
Ils sont 4-5, puis il faut toujours remplacer des gens, des personnes. On a de la misère. Des fois, c'est 3, 4, 5... 6. Non, mais tu sais, on remet les postes en circulation parce qu'il n'y a pas d'application, parce que les salaires, les conditions de travail sont pas compétitives. Le gouvernement est allé chercher des milliers de travailleurs, travailleuses qui auraient potentiellement travaillé dans le communautaire pour travailler dans le réseau de la santé après 30 ans de coupure, là. Ben, ça a un impact aussi sur nous, dans le fond.
Les salaires sont meilleurs du côté, justement, du système de santé. Fait que c'est plus attractif. Donc, il y a des gens qui quittent votre milieu pour s'en aller là aussi, là.
Oui, parce que actuellement, les gens dans le communautaire, ça peut, avec une inflation comme on a actuellement, c'est pas juste les gens qui fréquentent les groupes communautaires, c'est aussi les travailleurs du communautaire qui s'appauvrissent. Fait qu'à un moment donné, pour pour répondre à leurs besoins, ben ils décident d'aller travailler ailleurs. C'est normal.
Oui, tout à fait.
Ouais, puis qui dit roulement de personnel, ben c'est qu'on perd l'expertise finalement à toutes les fois que les personnes partent, qu'on doit en former des nouvelles. Tu sais, c'est beaucoup de réorganisation.
Oui, tout à fait. Puis ça prend une expertise. Puis là, on forme quelqu'un, puis finalement, il s'en va. Donc, on a mis nous-mêmes les permanents qui sont là depuis plusieurs années. On a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Donc, pendant ce temps-là, on rend pas de service à la population. Là, comme Vania le mentionnait, c'est touché faire une grève dans le milieu communautaire. Et donc, c'est à géométrie variable parce qu'il y en a qui peuvent se permettre de fermer complètement. Il y en a qui peuvent se permettre de fermer partiellement. Et ça démontre d'ailleurs que vos services sont essentiels, là. À quel point les organismes communautaires sont essentiels au Québec? Qu'est-ce qui se passerait si on n'en avait pas, mettons? Si tout le monde fermait, là, demain matin?
Bien, depuis l'adoption de la politique de reconnaissance par le gouvernement du milieu communautaire, malheureusement, le gouvernement s'est souvent appuyé sur le communautaire pour pallier ses propres manquements. Oui. Pas ça le rôle du communautaire. Le rôle du communautaire, c'est d'amener une approche différente. Mais malheureusement, il y a de plus en plus de monde qui se font tirer en bas du système. Puis ben, c'est qui, dans le fond, qui les ramasse? C'est le communautaire. Puis je reviens un peu sur la question d'avant, dans le sens que ce qui est grave actuellement, c'est que non seulement il y a de plus en plus de monde qui ont besoin du communautaire pour arriver, problème de logement, problème de santé mentale, name it, là, le communautaire, ça couvre à peu près tous les problèmes. Le monde arrive avec des problématiques qui sont multiples, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement un problème en santé mentale, puis ils ont besoin d'un accompagnement particulier. Ils ont aussi faim, puis ils ont aussi pas de logement. Puis leurs droits sont bafoués. Fait qu'à un moment donné, là, les organismes sont débordés non seulement par une augmentation de la demande, mais par une complexification, je sais pas si ça se dit, de chaque personne qui arrive dans les... Avec, puis là, je finis là-dessus pour qu'est-ce qui se passe dans le communautaire, avec 89% des groupes qui disent qu'il y a des problèmes d'épuisement dans leurs équipes de travail. 75% des groupes qui disent qu'ils ont de la difficulté à garder les employés. Là. Fait que quelqu'un qui arrive depuis 3 semaines dans le communautaire, c'est sûr que répondre à des problématiques hyper compliquées, là, ça prend du temps là, pour construire les services, construire l'aide, construire les liens avec la communauté.
Ouais, par rapport aux conditions salariales dans le milieu communautaire, on le dit, c'est pas facile. On parle de quoi, là? Ça va du salaire minimum à... y a-t-il un salaire moyen qu'on peut dévoiler pour donner un aperçu aux gens qui nous écoutent?
Ouais, là, j'ai pas le chiffre proche, là, mais on est dans le 20-30% moins haut que les services publics minimum. Puis ça, c'est dans les meilleures conditions.
Okay.
Parce qu'il y a de tout dans le communautaire. Il y a des groupes plus pauvres, puis il y a des groupes plus riches. Les groupes plus riches, évidemment, vont mieux rémunérer leurs employés. Mais les groupes très pauvres, qui ont presque pas de sous du gouvernement, ben, eux autres, là, c'est très difficile de même offrir le salaire minimum. Je te donne un exemple au REPAC, chez nous, là. On a été obligé d'accumuler des surplus, créer un troisième poste cette année. On couvre 2 régions, les 2 employés, imagine. Là. Comment tu veux qu'on réponde à la demande? Puis on n'a qu'à regarder dehors. La demande en éducation populaire est partout. Là. Je veux dire, le monde, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. C'est ça qu'on fait, nous autres. À 2 employés pour 2 grandes régions, comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on réussisse à faire? Pour créer un troisième poste, puis pas offrir le salaire minimum, il a fallu ramasser des sous, puis le créer juste pendant même pas un an, ce poste-là. Fait qu'on n'est pas capable de, tu sais, c'est bien beau, on a des missions sociales à faire. Il faut aussi avoir du monde pour les mener, ces missions. Ouais.
Est-ce que à terme, si ces problématiques-là ne sont pas réglées, on risque de voir la fermeture d'organismes arriver là, de façon pandémique? Tiens, je vais utiliser un terme à la mode.
Oui, évidemment. Puis il y a déjà des cas en Estrie, à Montréal, d'organismes qui ferment parce que justement, n'arrivent pas à engager, n'arrivent pas à avoir assez d'argent pour rouler. C'est ça arrive là, maintenant. Là.
Donc, les conséquences peuvent être désastreuses, Vania?
Ben, il y a un organisme de chez nous qui a vécu une période très difficile, les Amis de la Terre. C'est un organisme qui est comme sollicité par l'actualité actuellement. Ça serait bien les Amis de la Terre. Puis pendant plusieurs mois, ils n'ont pas été capables d'engager quelqu'un pour comme juste tenir à bout de bras l'organisme. Pendant des mois, ils ont été obligés de comme pas répondre aux citoyens et citoyennes qui appelaient là, parce qu'ils n'étaient pas capables, ouais. Il n'y avait pas d'employés. Ça, c'est... C'est dans plein milieu, c'est dans plein milieu.
Avez-vous l'impression que la population, les citoyens, citoyennes, on parle de Québec, Chaudière-Appalaches pour ce qui est du REPAC, sont sensibilisés aux questions, justement, de la difficulté, des difficultés là, que voient les organismes communautaires au jour le jour là, dans leur subsistance, ou même est-ce que les citoyens, citoyennes sont au courant de l'impact positif que ça a dans un milieu de vie? C'est difficile à mesurer.
Cette question-là, à préparer un peu d'avance, mais je sais qu'il y a eu le RQAK qui a fait une recherche là, pour savoir, j'aurais aimé ça avoir des données claires là-dessus. Dans les communautés, dans les quartiers, les groupes sont super implantés et ont vraiment une importance. On le voit quand on fait les discussions sur est-ce qu'on fait une journée de prière, parce que les discussions sont pas faites par une personne qui décide de fermer l'organisme. Souvent, dans plein d'organismes, c'est discuté même à la limite en assemblée générale. Fait que les gens qui animent l'organisme sont présents dans la prise de décision pour faire une grève, admettons. Puis ça montre vraiment le lien entre les personnes, les travailleurs, travailleuses dans ces organismes, dans le sens qu'ils décident ensemble de dire on va fermer le groupe pendant une journée. C'est pas juste les travailleurs qui décident de couler la porte. On essaie d'y aller avec. Le lien est très fort, mais est-ce que le lien se fait tout le temps? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de manque de connaissances de comment ça fonctionne les groupes communautaires? Ça, clairement, il y en a. Il y en a une partie de la population qui ignore ça, comme qui ne comprend pas bien, qui considère les groupes communautaires un peu comme des services publics, qui ont une attente de services publics. Sauf qu'on n'a pas des fonds de services publics, entre autres. On n'a pas les équipes de travail, on n'a pas les ressources. C'est pas la même chose.
En terminant, peut-être dévoiler à nouveau, en fait, les revendications là, pour la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Je vous laisse le micro, soit Vania ou Naëli, tu sais.
Oui, en fait, on veut 460 millions de plus par année pour les 4000 groupes d'action communautaire autonome. On veut des mesures structurantes qui visent la justice sociale. Par exemple, parler d'augmenter les prestations d'aide sociale, d'augmenter l'accès dans les services publics, pas obligé de passer par les services d'attente. Et puis aussi, on veut que le gouvernement reconnaisse notre autonomie.
Oui, parfait. Ben, on vous souhaite bonne chance. On est avec vous de tout cœur. En tout cas, oui, Vania, je vois que tu...
On a un dernier mot pour dire aux gens qui peuvent nous rejoindre à 13h. devant le Centre de l'environnement, jeudi, pour la manifestation qui va clôturer, dans le fond, cette vague-là de fermeture de grève. Puis tout le monde est invité, tout le monde peut venir appuyer leurs organismes dans cette mobilisation.
Donc, jeudi, au Centre pour l'environnement, c'est le Centre...
870 de Salaberry.
Exact, Centre Frédéric Bach. Merci beaucoup à vous deux d'être passés dans l'émission ce matin. Je vous souhaite une belle journée.
Toujours un plaisir.
Bye-bye.